Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 36, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est 14 degrés sur Québec. Pour aujourd'hui, ça va rester comme ça. Il n'y a pas de précipitation prévue. C'est la bonne nouvelle. Max de 16. Demain, mardi, une belle journée. Alternance de soleil et nuages avec un maximum de 18 degrés. Mercredi, ensoleillé, maximum de 22. Jeudi, alternance de soleil et nuages, maximum de 23. Et vendredi, ensoleillé, maximum de 24 degrés. Ça va être une superbe semaine, Pascal.
Et encore un peu l'été. On le sent. Mais aujourd'hui, très automne.
Oui, très automne. Ouais, très automne. C'est la rentrée parlementaire.
C'est ça que ça
demain,
sent.
Les policiers sont dans les médias. C'est le fun, on a la chance de leur jaser. Quoique celui que vous allez entendre dans les prochaines secondes vient faire son tour régulièrement, même quand il est en vacances.
Ouais.
Pascal Paradis, qui est député de Jean Talon au Parti québécois, est avec nous. Monsieur Paradis, bonjour.
Bonjour Yannick. Bonjour Pascal, ça va bien?
Merci
d'être là.
Les bonnes vacances?
On n'a pas eu beaucoup de vacances, nous. On a été très politiciens cet été.
Moi, j'en ai eu. Monsieur Paradis en a eu aussi. Mais Monsieur Paradis reste au Québec.
Oui?
Ben,
pourquoi?
Les vacances ont été plus courtes cette année.
Avec une élection.
C'est le premier été pour moi comme député. Alors, il y avait beaucoup de travail à faire en circonscription. Beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'organisations à rencontrer. Donc, ça a été des vacances plus courtes cette année.
Puis là, ben, M. Paradis, de plus en plus, il est connu. Donc, quand il était sur la plage à Samuel de Champlain, sur la terrasse Samuel de Champlain, les gens allaient y parler de politique.
Aimez-vous ça, en maillot de bain comme ça sur la plage? C'est la question.
Bon.
On était froid, on se réchauffe.
Il faut apprendre à vivre avec ça. C'est le contact constant avec les citoyens et les citoyennes. En fait, j'aime bien ça. Bon, c'est sûr que des fois, quand tu es avec tes enfants, là, en circonstances de vacances, là, ça peut donner lieu à des situations assez particulières. Mais c'est agréable, par exemple, au festival d'été, puis les gens viennent te parler de ce qu'ils voient pour la ville de Québec, pour le Québec, puis tu as des belles discussions. La politique, c'est de la communication, puis la communication, c'est de l'écoute. Donc, il faut que tu sois là pour les citoyens, pour les écouter, les entendre. Puis moi, j'aime ça.
Ce matin, j'ai fureté un peu sur Twitter. J'ai vu que votre chef était en recrutement dans le but de former le prochain gouvernement. C'est dans 2 ans. C'est courageux un peu de sortir comme ça. C'est le genre d'article qui pourrait lui revenir sur son visage dans 2 ans. Mettons qu'il ne réussit pas à prendre le gouvernement.
Mais c'est une question qui lui a été posée et qui, moi, me semble... Une réponse tout à fait normale. Nous, on aspire à former le gouvernement, Yannick.
Ouais.
Vous le savez, former le gouvernement, c'est quelque chose qui demande de la préparation. C'est juste des étapes normales. Alors, on ne tient rien pour acquis. Je pense même qu'on a eu à quelques reprises cette conversation-là ici avec vos collègues du midi, du collègue du matin. C'est de travailler avec rigueur. On ne tient rien pour acquis. Les électeurs, les électrices vont juger le programme de chacun des partis en 2026. Bien là, il y a des partiels qui s'en viennent. Il y en a déjà une, peut-être deux, qui s'en viennent.
Vous êtes allé vous promener à Terrebonne?
Ben oui, mais c'est ça. Mais faut être à la rencontre des citoyens.
Parce que cet article-là, moi, je trouvais ça particulier. Je trouvais que c'était très frondeur, là, parce que normalement, cette job-là se fait tout le temps en coulisses. Là, peut-être que le chef voulait envoyer un message comme quoi il allait avoir des emplois disponibles au Parti québécois dans les prochaines années.
Non, c'est vraiment pas ça.
Ça a toujours été en coulisses.
Je le dis, mais écoutez, est-ce que vous avez une planification en vue des élections en 2026, puis ce qui suivra? La réponse, c'est oui.
On vous avait posé la question, vous avez dit, ça veut dire que c'est des journalistes ou des citoyens?
Oui, c'est une question qui lui a posée, d'ailleurs, qui lui a été posée. J'étais là, c'était à Terrebonne. Donc, à Terrebonne, il y avait un point de presse et on lui a posé cette question-là et il a répondu. Et c'est une partie... c'est la rentrée parlementaire. On s'occupe de la rentrée parlementaire. On s'occupe de ce qui concerne les gens dans leur vie de tous les jours, la santé, l'éducation. Il va y avoir un débat sur l'énergie, etc. Mais ça fait partie de la vie politique de dire si tu aspires au pouvoir, ben tu te prépares en conséquence. C'est
qui va s'occuper avec l'énergie et tout ça là, dans quelques jours? Est-ce que c'est vous? C'est votre dossier à vous?
C'est mon dossier.
C'est votre dossier?
Ouais.
Vous attendez à quoi?
Bien, le problème, c'est que ce gouvernement nous a démontré à plusieurs reprises, dans plusieurs dossiers, qu'il y a un problème de vision et de planification. Et là, on le voit, là, mais on l'a en pleine figure. Le projet de loi 69 dont on parle, l'étude commence demain à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi d'une importance capitale pour l'avenir énergétique et économique du Québec. Et celui qui l'a préparé, c'est l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Économie. son nom est écrit à peu près en filigrane à peu près toutes les pages du projet de loi.
Vous parlez de M. Pierre Fitzgibbon.
De Pierre Fitzgibbon. Il a dit beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, en fin de semaine, on a entendu le premier ministre dire d'autres choses, mais c'est pas ça qu'il y a dans le projet de loi. Donc,
mais on comprend que le rififi est peut-être parti de là entre les deux hommes aussi. Est-ce que vous êtes soulagé du départ de M. Fitzgibbon si vous allez, vous, travailler sur l'énergie pour le Parti québécois, Pascal Paradis?
Ce qu'on disait de la gestion de Pierre Fitzgibbon, c'est que c'était une gestion qui semblait très personnalisée. Et il nous le disait lui-même, « J'ai choisi le projet Nordvolt, j'ai choisi ces projets-là, j'ai sur mon bureau plusieurs projets en matière d'énergie. » Le gouvernement n'a toujours pas présenté sa politique en matière énergétique. C'est quoi la politique de ce gouvernement-là? Personne ne le sait. Ce qu'on avait, c'était des déclarations de Pierre Fitzgibbon, qui n'étaient des fois pas les mêmes que celles de Michael Sébia, qui est le PDG d'Hydro-Québec, qui n'étaient pas les mêmes...
Et ça brassait Hydro-Québec aussi, il y a eu des remaniements.
Ce qu'on entend dire, c'est qu'il y avait, des discussions aussi importantes à Hydro-Québec. Donc là, c'est ça qu'on veut au Québec, une politique ce sont des déclarations à l'emporte-pièce souvent.
Mais êtes-vous soulagé de son départ? Parce que ça aurait été quand même quelqu'un que vous auriez eu à affronter dans des débats certains.
Bien, celui qui devait défendre son projet de loi, c'était Pierre Fitzgibbon.
Ouais.
Et là, on n'a pas la bonne personne devant nous, parce que là, elle vient d'arriver, là, elle débarque en catastrophe. Elle a été nommée jeudi. Et là, elle doit tout apprendre. C'est un projet de loi qui fait plus de 50 pages. Il y a 15 lois qui sont changées, 7 règlements. Il y a beaucoup d'aspects techniques. Ça ouvre la porte à une augmentation des tarifs, alors que là, le premier ministre nous dit que non. Donc là,
on se demande qu'il va être au pouvoir, c'est 3 % pour le résidentiel, selon lui.
Par exemple, c'est quoi la vision du gouvernement? Moi, si vous vous présentez, Yannick et Pascal, chez moi, avec deux beaux gros coffres à outils, vous me dites « on va construire quelque chose », je vous dis « on va construire quoi ?» Puis vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va construire. C'est ça qu'on s'en va faire.
Ou on sait, on ne sait pas. C'est là où on est placé en tant que citoyen aussi.
Bien, en tant que citoyen, c'est extrêmement important. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer avec les tarifs d'électricité? Qu'est-ce qui va se passer aussi avec le mode de production? À qui on va donner des blocs d'électricité? Depuis plusieurs années, ce qu'on entend dire, c'est le ministre, l'ancien ministre Fitzgibbon qui recevait les propositions puis qui choisissait des projets. C'est pas comme ça
mais
qu'on veut
gérer
notre
politique. Mais quelle est la vision du Parti québécois?
C'est ça. Êtes-vous prêt, vous, à ces questions-là?
Bien, on était prêt à avoir un débat national et on est toujours prêt à avoir un débat national. Tout le monde le demande, ce débat-là. Je comprends qu'on va avoir des consultations particulières. Ça, c'est intéressant. Là, il y a des gens qui vont venir nous dire ce qu'ils pensent de ça, mais les consultations, elles sont sur le projet de loi que nous a présenté le gouvernement, Pierre Fitzgibbon. Et là, c'est plus ce ministre-là qui est là. Donc, puis quelle est la vision? Donc, il faut d'abord en débattre. Où est-ce qu'on
s'en va? La vision du gouvernement actuel, mais le futur gouvernement, si jamais le PQ prend le pouvoir, ce serait quoi sa vision concernant l'électrification au Québec?
Bien, pour nous, là, il y a un aspect qui est fondamental, c'est que dans les années 60, on s'est bâti une richesse au Québec. La colonne vertébrale de l'économie du Québec, ce qui a fait en sorte qu'on a pu avoir la révolution tranquille, c'est notamment la nationalisation du secteur de l'électricité. C'est-à-dire, on va être maître nous-mêmes là-dedans, puis on va faire de l'argent avec ça. Il faut que les Québécoises et les Québécois comprennent qu'on fait de l'argent avec ça. On investit gros. On est devenu un géant planétaire en matière de production hydroélectrique, notamment, avec les barrages qu'on a construits. On a pris la maîtrise de notre économie. Et ça, ça paye des écoles, ça paye des routes, ça paye des hôpitaux, ça paye le personnel qui rend des services. C'est notre richesse. On veut la garder. Nous, au Parti québécois, là, c'est très important. C'est Hydro-Québec qui doit rester le maître d'œuvre de la production d'énergie au Québec parce que c'est nous qui faisons de l'argent, c'est notre expertise, on l'a construite à force de bras puis à force d'intelligence québécoise, ça va rester dans nos mains. C'est très important.
Maintenant, ça prend quelle forme? Est-ce que c'est d'autres barrages? Est-ce que c'est plus d'éoliennes? Est-ce que c'est l'énergie solaire? Est-ce qu'on va regarder ce qui se passe dans l'Ouest canadien où on a à peu près quoi 19 réacteurs qui sont encore actifs? Le nouveau nucléaire qui est disponible, qui est utilisé partout dans le monde, sauf au Québec, on nous dit qu'il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale, alors que c'est la chose à faire actuellement au niveau pour l'électricité. C'est le moins polluant pour la planète. Là, le nouveau nucléaire. Ici, ça pourrait être une option, alors que ça existe ailleurs?
Et là, votre question, elle concerne les moyens. Avant de discuter des moyens, il faut discuter de l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? De combien d'électricité on a besoin? De quelle énergie on a besoin au Québec? Et encore une fois, c'est là qu'on n'a pas eu la discussion. Notre gouvernement, notre ministre, je le réitère parce que c'est important, a vendu, probablement pas très cher, notre électricité au fil des dernières années pour attirer des entreprises étrangères.
Est-ce qu'on est dépourvu quand on est dans un parti de l'opposition actuellement, comme le Parti québécois, avec peu de députés élus, à avoir de l'information qui nous permet de structurer un aussi gros projet comme celui-là? Parce que peut-être les portes sont fermées quant à certaines recherches d'informations ou un développement quelconque pour aller ensuite débattre. Je sens que vous souhaitez répondre, mais on est encore peut-être au balbutiement d'un projet qui serait à monter et non une certitude. Est-ce qu'on est dépourvu d'informations? Est-ce que ce n'est qu'une fois au pouvoir où on est capable de présenter un projet qui se tient?
On peut jouer notre rôle très bien d'opposition constructive. Puis j'insiste sur l'adjectif constructif. C'est ce qu'on fait, nous, au Parti québécois. On veut analyser les données avec rigueur. Qu'est-ce que la science dit? Qu'est-ce que les groupes intéressés disent? Pour être capable de faire des propositions puis de dire ça va être ça, nous, notre programme.
Parce que quand vous
mais ça
nous...
prend de l'information. Et donc là, ce que vous venez de dire, Pascal, c'est vital et les Québécoises et les Québécois doivent comprendre ça. On manque d'informations au moment où on se parle. C'est quoi le modèle? C'est quoi les prévisions du gouvernement du Québec sur la vente d'énergie? Et on le dit souvent, manque de planification, manque de transparence.
Donc, quand nous, on arrive à des questions, c'est sûr qu'on se bute à un mur quand on vous demande, mettons, ce serait quoi votre projet concret par ces raisons-là?
La dernière chose que tu veux faire, c'est de te prononcer dans le vide puis de dire, ben moi, je pense ça, puis nous, on pense ceci. On veut se prononcer sur la base de nos valeurs, quelle est notre vision à nous, mais ensuite, sur quels moyens on va prendre pour produire combien d'électricité, ça prend des données. Hydro-Québec, je dois le préciser, Hydro-Québec a déposé un plan d'action, a déposé sa vision jusqu'à 2035. Ça, c'est bien, ça, c'est Hydro-Québec. Mais on le sait bien qu'il y a une grande partie de ces décisions-là qui se prennent au gouvernement. Et le gouvernement, on dit, mais c'est quoi votre vision à vous? C'est quoi les chiffres que vous avez? C'est quoi votre modèle? C'est quoi la modélisation des besoins puis de ce qu'on va être capable de produire en énergie? Et ça, on ne le sait pas. C'est pour ça que les gens disent, attendez, là, avant d'aller discuter d'un projet de loi qui est assez technique, qui encadre une vision, bien, ça prend la vision.
Mais c'est pour l'électricité. Mais c'est-tu parce que la CAQ n'est pas prête ou c'est un jeu d'ego du genre, on vous donnera pas cette info-là pour pas que vous développiez à côté?
Ce gouvernement-là a un problème de planification dans plusieurs secteurs, dont certains dont on a déjà discuté ici ensemble. En matière de mobilité, de transport, c'est la même chose. En matière de santé, c'est la même chose. On nous promettait des résultats. Vous vous souvenez, des fois, on s'était parlé, c'était après le baillon là, sur le projet de loi 15 pour la réforme de la santé.
Je comprends tout ça.
Il
n'y
avait pas de planification.
Pour l'électricité, là, on est passé en quelques années, je pense que c'est 2-3 ans seulement.
De grands surplus.
De grands surplus à des déficits.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Fitzgibbon nous dit, ah ben là, vous allez devoir faire votre lavage à minuit le soir, vous allez devoir faire partir votre lave-vaisselle à minuit. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a fait? C'est ça que vous allez apprendre dans les prochains jours? Là?
Problème de planification, très clairement, mais aussi. C'est une vision. J'étais la semaine passée avec toute l'équipe du Parti québécois à Rouyn-Noranda. Et là, à Rouyn, on nous dit, bien nous, il y a des projets intéressants qu'on aimerait développer, mais on s'est fait dire par le ministre Fitzgibbon qu'on manquait d'électricité, qu'on manquait d'énergie. Et en même temps, bien, on est allé promettre beaucoup de cette énergie-là à des entreprises étrangères. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que les calculs qu'on avait il y a 2 ans, c'était des grands surplus d'énergie, puis là, on pouvait aller en vendre? Puis probablement pas au bon prix. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en déficit d'énergie, que les Québécoises et les Québécois se posent ces questions-là? Nous, c'est ça qu'on demande au gouvernement. Puis on dit, rendez-nous des comptes avant qu'on aille étudier un projet de loi technique.
Êtes-vous toujours pour l'objectif 2035 pour l'interdiction des véhicules à essence sur le territoire?
Mais ça, c'est la même chose, là. On nous dit, on va développer la filière batterie, on va être capable de produire des véhicules électriques qui vont faire en sorte que les gens vont être capables d'acheter des véhicules électriques pour satisfaire à ce besoin-là, à cette nécessité-là. Puis là, on nous dit, bien là, on n'est pas sûr qu'il va y avoir assez de véhicules, on n'est pas sûr que les prix vont avoir assez baissé pour qu'on soit au rendez-vous. Donc
on
ça,
est,
c'est
on
la
est
même chose.
On est convaincus que ça ne se ferait pas, nous, là. On pense vraiment que même la date qui a été repoussée, c'est impossible d'implanter ça.
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut se donner des objectifs clairs de décarbonation parce qu'on s'en va vraiment vers là. Les Européens s'en vont vers là. Le reste de la planète s'en va vers
là. Ça, c'est vos orientations.
Faut qu'on soit parmi les meilleurs au monde dans ce domaine de la décarbonation, ouais. Mais ça, et ça, on y croit.
Ça, c'est vos orientations, puis c'est bien correct. Là. Si vous désirez aller vers là, puis les gens votent pour vous, moi, je suis pour la démocratie, là, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui m'agace, c'est que quand on parle avec des électriciens, peu importe l'électricien auquel vous allez parler, vous allez dire, est-ce que c'est possible de transformer tous les systèmes électriques d'ici 2035 pour accueillir toute cette nouvelle charge de véhicules-là qui vont se brancher constamment? Les électriciens nous disent non. Qu'un politicien me dise oui... Je me dis, c'est quoi ces connaissances là-dedans? Tu parles avec des électriciens, mais quand je parle avec les électriciens, c'est impossible. Quand je parle avec les constructeurs ou les concessionnaires, ils disent, mais non, c'est parce que ce n'est pas une demande des clients. Ce que les clients veulent actuellement, c'est soit encore des véhicules à essence ou soit des véhicules hybrides. Ford a décidé de reculer. Le Northvolt semble avoir des difficultés. Mm-hmm. C'est Honda aussi qui a décidé de se tasser un peu de côté. Est-ce qu'à un moment donné, le nouveau gouvernement qui va arriver va prendre d'autres décisions? Seriez-vous prêt à enlever ce 2035? Là, le repousser? Parce qu'ailleurs, ça s'est fait.
Bon, Yannick, vous me dites, bon, moi, j'ai parlé à telle personne, c'est bien. Donc, vous avez déjà une série de renseignements.
On parle avec les gens qui sont en théâtre de guerre. On ne parle pas avec les politiciens. On parle avec les gens qui sont directement sur le terrain, qui disent, Yann, l'île des Sœurs, là, je veux dire, il y a des véhicules partout, ils ne peuvent pas tous se brancher. Au centre-ville de Québec, centre-ville de Montréal, il y a des gens qui ont des véhicules. Ils ne pourront pas se brancher sur la rue, M. Paradis.
Bien, moi, comme politicien, vous dites, on ne parle pas juste à des politiciens, mais moi, comme politicien, je parle aux gens du terrain aussi. Là. Je parle aux experts, je parle aux scientifiques, je parle aux gens de la société civile qui ont une expertise sur cette question-là. C'est ça qu'il faut faire pour faire de la bonne politique.
Et vous dites quoi? 2035, c'est possible?
Là, ce qu'on sait, c'est qu'on est à une étape où on a besoin d'avoir un véritable débat public où on les voit, ces études-là, qu'on ne fait pas juste en parler ici, que le Québec au complet voit les données et comprennent où est-ce que le gouvernement veut s'en aller sur ces questions-là. Et on n'a pas ça. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ça que ça nous prend. Les experts dont vous parlez vont venir témoigner. D'autres vont devenir témoigner, mais on va avoir un débat ouvert. Alors que là, actuellement, on a un débat sur un projet de loi présenté par un ministre qui a démissionné, en cours de mandat d'ailleurs. Hein? Ça vous explique un peu la désinvolture avec laquelle ce gouvernement-là considère le mandat qui lui a été confié. Moi, je veux bien là, que le ministre était démotivé et qu'il n'avait plus assez de motivation. Il a quand même laissé tomber les électeurs en plein mandat et avant l'étude du projet de loi, qui est son projet de loi. Et là, on nous dit, étudiez ça, travaillez là-dessus, mais on ne vous donnera pas les données dont vous parlez, Yannick, et dont moi, je vous parle. On ne vous donnera pas l'information puis on n'aura pas le débat sur où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est quoi notre horizon temporel? C'est quoi nos cibles de réduction des gaz à effet de serre? À qui on vend notre électricité? À combien? Qu'en est-il des tarifs pour les gens là, qui nous écoutent, là, qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec leurs tarifs? Ça nous prend cette vision-là pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on va faire avec le projet de loi.
Parce que les experts nous disent, ah, écoutez, on regarde là, le prix de l'électricité au Québec, on paye beaucoup moins cher qu'ailleurs. Les experts ont raison, mais quand on regarde le fardeau fiscal des Québécois, on paye beaucoup plus cher qu'ailleurs de taxes, tout indépendamment de tout ce qui se passe au Canada. C'est nous qui sommes les plus surtaxés. Donc, l'avantage qu'on a au Québec là, de vivre dans un endroit où il fait extrêmement froid l'hiver, c'est d'avoir des tarifs qui ont du bon sens pour Hydro-Québec. Advenant le cas où ça monte, là, comme Pierre Fitzgibbon pensait que ça allait monter. Ça va être quoi l'avantage de rester au Québec, M. Paradis?
Bien, ça fait certainement partie du
pacte. Je veux pas être pogné ici, moi.
Ça fait partie du pacte. Ben, attendez. Ça fait partie du pacte, je pense, avec les Québécoises et les Québécois, que parce que nous avons bâti Hydro-Québec, parce que nous avons bâti cette capacité de produire de l'énergie, que ça va faire partie des avantages qu'on va avoir accès à cette énergie-là à des tarifs avantageux, notamment parce que, oui, on vit dans un pays où il fait froid l'hiver. Mais ça fait partie du pacte. Et si le gouvernement veut modifier ce pacte-là, bien qu'il nous le dise, qu'on nous l'explique à visière levée. Encore une fois, on a entendu des choses du premier ministre en fin de semaine, mais c'est pas ça qu'il y a dans le projet de loi. C'est pas ce que le projet de loi dit. Alors, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire « retirez le projet de loi, là, puis retournez faire vos devoirs ».
Pascal, Éric Duhem avait une question?
Absolument. Je me suis dépêchée à la découper et je lui ai demandé s'il avait une question à poser à M. Pascal Paradis du PQ qui vient dans une heure. Quelle serait-elle?
Ils sont en train de travailler sur un référendum. Puis s'il y en avait un aujourd'hui, là, il y a les deux tiers des Québécois qui voteraient contre. Ça c'est leur priorité numéro un. Puis leur priorité numéro deux, c'est de nommer du monde dans un gouvernement alors qu'ils ne sont même pas élus puis qu'on est à 2 ans des élections. Si on voulait avoir un exemple de comment ils sont déconnectés, ouais. Pourquoi à place qu'ils ne se connectent pas sur le monde? Comment ça qu'ils n'étaient pas avec nous autres hier, M. Paradis, pour venir parler aux gens contre le tramway? Comment ça que sur le troisième lien, ils sont contre le 70 % de la population de Québec alors qu'il est un élu ici dans Jean Talon? Ça, c'est des questions auxquelles ils devraient se préoccuper pas mal plus que de nommer du monde chef de cabinet d'un peut-être gouvernement péquiste ou d'un peut-être référendum, troisième référendum perdant.
Mais c'est... Votre réponse?
Bon, d'abord, c'est intéressant que vous ayez eu ce dialogue-là avec Éric Duhaime. Là, moi, c'est pas mon rôle de dialoguer avec Éric Duhaime, mais en politicien, de répondre à ces questions comme ça, là, mais je vais le faire.
Puis une joute politique, vous la connaissez. Là.
Ben oui. Mais,
en plus, vous êtes avocat de profession.
Oui, oui.
Vous en avez vu d'autres.
Bon, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, là, on n'est pas en train de nommer personne, là, puis on n'est pas en train de mettre la charrue devant les bœufs. On est en train d'avoir, comme on l'a dit qu'on allait l'avoir sur toutes les questions, une planification rigoureuse d'un parti qui aspire au pouvoir.
Moi, j'ai demandé c'est si tout. C'était ça, travailler en amont. Donc, on dit tout le temps que les gouvernements ne travaillent pas en amont. Est-ce que c'est... Puis, ils n'étaient pas d'accord.
Mais sérieusement, qu'est-ce que vous me diriez aujourd'hui, là? Si la ligne de question serait l'inverse, là, si on vous avait dit, ben non, nous, on ne s'occupe pas de tout, du tout de ça, on ne planifie pas ça, on va penser à ça le lendemain de l'élection de 2026.
Pensez que peu importe la réponse.
Mais non, mais c'est pas... Aujourd'hui, là, on est concentré sur notre rentrée, on travaille pour répondre aux besoins des citoyens, pour avoir notre dialogue constructif avec le gouvernement, avec les autres groupes, les autres partis d'opposition. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça notre pain et notre beurre. Mais en même temps, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est une partie minime de notre temps, mais on avance. Pour le reste, ben c'est encore en référence à ce que je vous disais. Mm-hmm. Si je veux faire la bonne chose dans l'intérêt public, moi, c'est l'intérêt public qui m'intéresse.
Pascal Paradis, ça va être quoi ces dossiers pour l'automne?
On va surveiller ce qui se passe en santé.
Oui.
On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Où sont les résultats de la grande réforme administrative du gouvernement? Un gouvernement qui disait qu'il voulait donner plus de rendez-vous aux gens qui ont besoin de voir un médecin. 1 500 000 Québécois qui n'ont pas de médecin. Qu'est-ce qui se passe dans Jean Talon? Moi, j'ai plein de gens qui n'ont pas accès aux services de santé. L'énergie va nous occuper. Les transports et la mobilité durable. Je comprends que...
On attend des mises à jour pour ce qui est du tramway, du troisième lien.
Ah, ben on attend le gouvernement. Mais qui va croire le gouvernement dans ce qu'il va nous dire là? Je connais votre avis là-dessus, Yannick. On en a déjà parlé ensemble.
Dans vos premières entrevues, vous avez glissé un élément, parce que je vous avais posé la question, M. Paradis, c'est quoi le plan B dans le cas d'une fermeture du Pont-Pierre-Laporte? Puis là, vous aviez dit, bon, il y en a un plan B. Puis là, je vous avais dit, c'est Trois-Rivières. Et quelques mois plus tard, après avoir détruit le projet du troisième lien, Geneviève Guilbeault est arrivée avec un enjeu de sécurité.
Moi, je reconnais qu'il y a des gens comme vous qui m'en aviez parlé avant. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement du Québec
avant, non.
parler de ça?
Non, avant.
Alors, les croyez-vous quand ils vous disent « on va faire un troisième lien parce que c'est une question de sécurité économique » alors que nulle part dans le rapport de la CDPQ, ça s'est passé après que la CDPQ ait produit un rapport, là, ils arrivent avec ça. Les croyez-vous?
La CDPQ avait dit que c'était pas leur mandat.
La CDPQ a dit... Il y a des gens qui nous ont parlé de ça, mais nous, c'est pas à l'intérieur de notre mandat. Ouais. Et le gouvernement a commencé par dire, la ministre Guilbeault a commencé par dire, la CDPQ nous a dit qu'il y a un problème de sécurité économique. Puis après ça, on lui a dit non, c'est pas ce que ça dit. Puis après ça, elle a dit, la CDPQ nous a dit qu'il y a une majorité de gens qui leur ont dit ça. Puis ça, c'est pas vrai, c'est pas la situation. Alors, qui va faire confiance à ce gouvernement sur cette question-là? On attend la mise à jour. On attend la mise à jour. Il faut faire la bonne chose dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Il faut s'assurer que la solution qui est adoptée, elle va servir. Puis malheureusement, toutes les études jusqu'à maintenant démontrent que la solution qui est envisagée par le gouvernement, dont on ne sait pas elle coûte combien, dont on ne sait pas il va être où ce pont-là, on ne sait pas c'est quoi la technique, que pour l'instant, ce n'est pas la bonne solution au bon problème.
Pour l'instant. Mais il faut bâtir pour demain.
Bien, pour l'instant, j'aurais... Toutes les études jusqu'à maintenant disent la même chose, Yannick. Vous attendez à quoi d'un politicien? C'est vous qui me disiez ça tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que vous voulez qu'on se fie à la science puis aux données?
Savez-vous quoi? Oui, mais à un moment donné, il y a une logique qui doit primer. En fin de semaine dernière, pas cette fin de semaine-ci, mais l'autre fin de semaine d'avant, le pont de Québec était fermé et il y a eu un accident sur le pont Pierre-Laporte. Ça a créé un bouchon monstre. Les ambulances passent comment? Les services les services incendies qui se partagent des services, ils passent comment quand il y a ce type de bouchon-là? Comment on peut